RMC, face aux grandes gueules.
David Lisnard, bonjour.
Bonjour.
Ou plutôt Benoît Zias, puisqu'on vous présente comme étant le Javier Milei de la Côte d'Azur.
Moi, c'est
du nom
bon
du président
bon
argentin.
Plutôt bonjourno, parce que je suis quand même méditerranéen avant tout, quoi.
Mais si, quand on vous dit ça, ça vous agace ou vous assumez ce lien?
Ça me paraît bizarre, voilà. C'est-à-dire que le lien, il est dans une dénonciation commune des excès de l'étatisme.
Vous avez sorti une broyeuse, ouais, la vidéo a fait beaucoup de bruit, une broyeuse pour broyer des documents administratifs qui nous empêchent
en quelque sorte. Et d'ailleurs, tout le monde nous donne raison depuis, y compris le président de la République qui réunit des maires la semaine dernière.
C'est vrai.
Et qui, de façon très populiste, hein, pourrions-nous dire.
On peut le dire.
Parce qu'on ne se prive pas de me le dire de temps en temps, dit, vous vous rendez compte, on a refait Notre-Dame en 5 ans. Et il faut 5 ans pour une autorisation de poulailler. Oui, on ne cesse de le dénoncer, cela. Et la cause de ces excès de délais qui coûtent des nerfs, qui coûtent de l'argent, qui coûtent des vocations, qui font régresser le pays, qui sont au détriment de la prospérité, du pouvoir d'achat, c'est précisément les contradictions bureaucratiques. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas de codification. Il faut évidemment des normes, il faut une codification, il faut du droit. Mais qu'aujourd'hui, on est dans un excès de droit et que notre société, elle est déséquilibrée et que cette bureaucratie est devenue un fléau. La bureaucratie, c'est l'impôt invisible, que personne ne vote, mais que tout le monde paie. Et ça, il faut en finir
et
avec
ça. Et de façon indirecte.
Et de façon indirecte, tout le
monde. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, mais combien avant vous d'hommes ou de femmes politiques ont promis justement de simplifier, de réduire, de diminuer cet état obèse, et puis finalement, on s'est rendu compte que ça n'a jamais été fait?
Oui, vous avez raison, c'est la vraie question. Et c'est aussi pour cela que j'y vais. C'est-à-dire que moi, je viens d'un monde du petit commerce, et puis j'ai eu une montée progressive dans la chose publique. Je suis maire, j'ai été avant adjoint, j'ai dirigé des commerces et des entreprises. Et à chaque fois qu'on m'a parlé d'un choc de simplification, c'est la grosse formule marketing pas très chère, à chaque fois, à la fin, c'était plus compliqué. Parce que vous voyez, et on le voit dans les politiques aujourd'hui, qui sont des gens souvent intelligents, qui aiment le pays, je leur fais pas du tout ce grief, le grief inverse. Mais ils ont été formés pour produire de la norme, de la procédure. Or, ce que l'on apprend, c'est qu'il y a un ordre spontané qui est le plus efficace. Qu'on gagne beaucoup plus dans la vie en faisant confiance que dans la défiance, que le rôle de l'État est très important pour intervenir a posteriori pour sanctionner, mais pas a priori pour entraver. Donc c'est un changement total de logiciel, et c'est pour ça que je me suis émancipé de tout parti politique, que j'ai créé Nouvelle Énergie, parce que c'est une façon de vraiment gérer différemment, d'accepter que tout n'est pas politique, que tout n'est pas public. C'est très particulier en France. Et je veux juste terminer là-dessus. Quand les politiques qui sentent les tendances, hein, on entend à nouveau parler de lutte contre la bureaucratie, de Monsieur Attal, Monsieur Bardella, etc. Ils disent des choses justes. Mais objectivement, c'est comme si vous demandiez... ils ont tous été formés de la même façon. Moi, je dis, il ne faut pas se bercer d'illusions, pour faire un jeu de mots un peu lourd d'ailleurs, mais qui est parlant. Et c'est comme si vous demandiez, si vous leur demandez de débureaucratiser, c'est comme si vous demandiez à un dealer de lutter contre le trafic de drogue. Ils ont été formés comme cela. Et on ne peut pas débureaucratiser. Alors pourquoi d'abord? Pourquoi il faut débureaucratiser? Parce que si vous voulez plus de médecins mieux payés, si vous voulez des agriculteurs qui sont considérés comme des vrais chefs d'entreprise et qui gagnent leur vie, si vous voulez des professions libérales qui aussi prospères et plus prospères que dans les autres pays, bon, etc. Vous devez avoir, si vous voulez, plus de policiers la nuit. Moi, j'ai une ville compliquée, j'ai une ville très contrastée, une ville que j'adore, mais il faut la tenir. Or la nuit, on a quasiment plus de policiers nationaux sur certaines périodes. Il y en a même plus. Enfin, il n'y en a plus du tout. Dans le pays qui paye le plus d'impôts, le plus de charges. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ce paradoxe d'avoir un record de dépenses publiques et d'avoir des services publics qui se dégradent. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a un détournement d'argent public par les procédures et la bureaucratie.
Donc, il part dans la bureaucratie, c'est l'argent public.
Si vous voulez plus de policiers, des soignants mieux payés à l'hôpital, des profs bien payés, de bon niveau, etc., il faut qu'il y ait moins de bureaucrates. Si vous voulez qu'il y ait moins de bureaucrates, il faut qu'il y ait moins de bureaucratie. Si vous voulez qu'il y ait moins de bureaucratie, il faut qu'il y ait moins de règles. Il faut qu'il y ait une dérégulation. Et c'est là que s'arrêtent les politiciens.
Ouais, mais justement, jusqu'à la dérégulation. Monsieur Lisnard, pardonnez-moi, mais on entend tout ce que vous dites. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous taxe un peu avec cette étiquette de populiste.
Ah, ça pourrait être taxé, mais on est tous taxés ici. Ouais. Je vous rassure, on est le pays le plus taxé au monde.
Il y a de jolis slogans qui sortent de votre bouche, hein, j'en conviens, mais sauf que où sont les propositions concrètes? Parce que donc là, ce sont des slogans, selon mon avis. Et puis finalement, d'ailleurs, vous dites oui, donc les bureaucrates, à chaque fois vous employez des termes, mais il faudrait peut-être un petit peu être plus proche du peuple. Quoi,
parce que l'exemple concret.
L'exemple concret, proposition concrète.
Vous me sortez un prêt-à-parler, là.
Vous avez préparé votre saillie. Pas du tout.
Mais j'accepte.
Pardonnez-moi, mais quand je regarde aussi vos interventions sur divers médias, à mon avis, il faut peut-être aussi changer de discours, parce que sur le fait que vous ayez soyez parti des LR, c'est toujours la même chose.
J'essaierai de suivre vos conseils. Mais en attendant, si vous voulez, par exemple, quand j'étais à la mutualité en janvier, j'ai détaillé pendant plus d'une heure, je ne sais pas si vous étiez présente, les baisses de dépenses, donc je l'affirme, je l'ai dit, y compris sur la retraite, je prends des positions que d'autres ne prennent pas, voilà. Donc je les détaille, parce que vous ne pouvez pas lutter contre la bureaucratie si derrière vous ne remettez pas en cause le système tel qu'il a été conçu. On est dans un modèle qui a très bien fonctionné, qui a été l'État-providence, qui a été un modèle de développement.
Il n'est plus adapté
parce qu'il reposait sur une démographie galopante. On faisait beaucoup plus d'enfants, donc on élargissait la base de cotisation. Sur une immigration qui est une réalité, mais maîtrisée, qui est une immigration essentiellement de travail. Or, aujourd'hui, c'est une immigration non maîtrisée de peuplement. Et troisièmement, sur des gains de productivité. Voilà. Donc, je cite souvent cet exemple. Un smicard qui gagne 1440 euros net par mois aujourd'hui, si vous voulez le passer à 2000 euros net dans votre boîte, donc il va gagner 560 euros de plus. Vous êtes obligé en tant qu'employeur de sortir 1500 euros de plus. Donc il faut diminuer trois fois. Donc évidemment, si vous ne diminuez pas, par exemple, il faut désindexer les retraites au-dessus du revenu médian. C'est entre 4 et 5 milliards par an d'économie, au moins dans un premier temps, pour basculer vers de l'épargne, etc. Les gens le comprennent très bien. Le salarié, mon projet, c'est de...
Le salarié ne comprend pas pourquoi il y a autant de différence entre le brut et le net.
Mais bien sûr, donc...
Mais vous n'êtes pas le seul à le proposer, ça, monsieur Lisnard.
Non plus.
Il y a Retailleau qui le propose.
Mais c'est vous
enfoncer des portes ouvertes.
Mais tant mieux, parce que quand je parlais de retraite par capitalisation il y a deux ans, il y a trois ans, y compris au sein de LR, on me dit, il ne faut surtout pas en parler.
C'est
pas possible. Aujourd'hui, tout le monde le reprend.
Mais je vais prendre un exemple.
Quand je dis qu'il faut supprimer le principe de précaution de la Constitution, j'espère que ça va être repris. Quand je dis qu'il faut supprimer la planification scolaire, qui est une aberration, qui fait que les plus pauvres sont dans des écoles ghetto et qu'on sacrifie des dizaines de milliers de gamins, personne ne le dit. J'espère que ça sera repris. Moi, je veux gagner et je veux faire gagner les idées, je veux faire gagner la France.
David Lisnard, une question concrète.
J'ai pas le monopole de la bonne idée, voilà.
Le gouvernement nous dit la crise actuelle provoquée par la guerre au Moyen-Orient coûte à la France 4 à 6 milliards d'euros. Il faut trouver donc 4 à 6 milliards d'euros, là. C'est ce que vient de dire le gouvernement, Roland Lescure, le ministre de l'économie. On les trouve où, ces 4 à 6 milliards d'euros?
Aujourd'hui, on a 900 milliards de dépenses sociales. Donc c'est un tiers du PIB, 900 milliards. De loin, le pays au monde qui a le plus de dépenses sociales. Et pourtant, on n'a jamais autant eu de SDF dans les rues, hein. Et ça, je peux vous en parler longuement. Enfin, moi, je suis dans une ville qui a un taux de pauvreté élevé historiquement. Hein. C'est le double de l'endroit où on se trouve ici.
Contrairement à une idée reçue de
certains.
C'est la Croisette, etc.
Et parce que c'est ceux qui viennent 10 jours dans l'année qui restent sur la Croisette qui s'imaginent que les Calois montent les marches toute l'année avec des stars. Quoi. C'est pas grave. C'est une ville cosmopolite. C'est une ville d'immigration pauvre depuis très longtemps. Donc, si on n'est pas capable, comme dans n'importe quelle boîte, comme moi, je l'ai fait dans mes... Parce que vous me parliez, moi je viens d'un monde du commerce, j'ai vendu mes derniers commerces aujourd'hui, mais c'est ma réalité, c'est pas un storytelling, c'est pas un truc que je m'invente, ça a été ma vie, voilà. Et si vous n'êtes pas capable de réduire de 5%, de 10% une dépense, c'est même pas la peine de se présenter pour diriger un groupe, ou une collectivité, ou une entreprise, c'est absurde. Aujourd'hui,
ça s'appelle l'équilibre.
Donc vous dites 4 à 6 milliards, c'est rien quand on dépense 900 milliards pour le social.
Ça me paraît une telle évidence, quoi.
Ça a l'air d'être un casse-tête pour le gouvernement. L'histoire du budget, c'est un casse-tête. On a même été obligé de suspendre la réforme des retraites.
On est passé du quoi qu'il en coûte, n'importe quoi qu'il en coûte, et après c'est toujours l'impôt et le rabot. Et ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que le rabot, il est absurde parce qu'il crée de l'injustice dans les services. Vous avez des fonctionnaires maltraités, etc. Et on crée de la fiscalité supplémentaire. On a le record du monde. C'est pas moi qui l'invente. Des impôts et des charges. Ce qui crée, ce qui se fait au détriment de l'activité économique. Donc, c'est pour ça qu'il faut, il est temps aujourd'hui, comme en 58, avec le plan Rueff et avec De Gaulle, d'avoir un plan de très très massif de réduction de la dépense, comme ça a été fait en 58, de rétablissement des comptes publics. C'est pas une fin en soi, c'est
mais
pas
une
vue
comptable. Mais on peut être élu en annonçant quand même des mauvaises nouvelles.
Mais c'est pas des mauvaises nouvelles. Quelle est la mauvaise nouvelle?
Si vous allez réduire les dépenses publiques, il y a des Français qui vont en pâtir.
Non, pas, mais c'est, moi je suis pas pour le sado-réformisme, ce que je disais à l'époque à François Fillon d'ailleurs. Quand vous dites, regardez, vous réduisez, vous avez 1200 organismes publics, des agences qui ont été créées depuis 25 ans. Donc, il ne s'agit pas de toutes les supprimer. Dans un état de droit, on a besoin de garder quelques agences hors gouvernementales. Mais 1200 qui ont été créées, vous avez 7 agences environnementales. Aucune de ces agences ne peut à elle seule vous autoriser votre projet, mais chacune peut vous planter votre projet. Un agriculteur le sait, un industriel le sait. Vous faites une école, vous avez 1800 pages de notices thermiques pour faire une école aujourd'hui en France. Hein. Donc, la direction régionale de l'environnement, il faut la supprimer. La MRAE, il faut la supprimer. C'est, je vous épargne les acronymes. Vous, ces organismes consomment aujourd'hui.
Bien sûr.
Il faut une seule agence environnementale avec quelques règles claires, etc. Ces organismes consomment 90 milliards d'euros. C'est pas des dépenses sociales. 90 milliards d'euros par an de fonctionnement.
Oui, mais quand ils ont
les agences, c'est 80 milliards par an.
Mais on regroupe la spécialité française.
Mais il s'agit pas de regrouper.
C'est parfois fusionner et de pas faire de d'économie derrière. Par exemple, les régions, on a simplifié avec François Hollande. Finalement, ça
va être super. On l'a compliqué.
On l'a compliqué parce qu'on pense que le grand ensemble, en France, on a été formé dans un esprit que j'adore, mais qui est déductif. Et on pense que plus c'est grand, mieux c'est. Or, c'est faux. Il y a des grands ensembles qui peuvent être performants. On a besoin de par exemple, on parle aujourd'hui d'Union européenne dans le monde multipolaire, etc. Il faut réinventer cela, c'est une évidence. Mais la vie, c'est pas ça. Donc, quand vous gardez les mêmes règles, les mêmes obligations normatives, et vous créez un gros machin, vous éloignez les gens de la décision. Et ça ne fonctionne pas.
Mais si vous permettez, monsieur Lister, il n'y a pas que ça. D'un côté, il y a effectivement l'explosion des normes qui ralentissent le fonctionnement du pays. Et puis, on a complètement perdu la spécificité française, qui était un État protecteur, une administration facilitatrice. À la place de ça, on a un État qui détruit, et une administration qui n'est plus du tout facilitatrice, mais qui, au contraire, impacte. Et dans la santé, je vous donne un exemple. Nous, moi, je dirige un établissement de soins de suite. On a eu une modification de nos tarifs. Et chaque année, au 1er janvier, les tarifs changent. Et l'administration, qui est pour nous l'assurance maladie, nous impose de ne pas facturer pendant X semaines, voire mois, tant que ces logiciels ne sont pas prêts à encadrer les nouveaux tarifs. Et en ça, elle nous détruit. Je vous lis un mail qu'on m'a envoyé hier, qui est très très significatif. On nous dit, c'est la CEPAM qui nous parle, le changement de tarif pose un problème pour les séjours SMR, car la règle de calcul dans notre applicatif n'est pas conforme à la réglementation. Une correction du code est en cours. Les factures bloquées devraient pouvoir être transmises mi-mai. Voilà. Et donc, on nous tue. Et donc, il faut non seulement, si vous voulez, que baisser effectivement le nombre de procédures et de normes, mais il faut imposer à l'administration qu'elle soit facilitatrice.
Oui, mais ça fait 30 ans.
Elle est là pour servir.
Jérôme,
elle n'est pas là pour détruire.
Ça fait 30 ans
et le rôle du politique.
De simplifier.
L'administration est un outil du politique. Et donc, en ça, le politique doit imposer à l'administration de ne pas détruire ses affiliés. Sinon, c'est la fin de tout.
Non, mais vous prêchez un convaincu, effectivement, ça fait.
Mais quels sont les freins? Puisque, comme le dit Sandrine, et je le disais, c'est vrai que ça fait des années qu'on nous promet, de simplifier. Et on voit bien qu'on n'y arrive pas. Quels sont les freins? Ce sont les administrations qui freinent, par exemple. Est-ce que le politique a encore le pouvoir de changer les choses?
Alors, il y a beaucoup de questions dans cette question-là, mais c'est très juste. C'est-à-dire que, alors, premièrement, c'est justement parce que ça fait 30 ans qu'il ne faut pas accepter ça comme une fatalité. Tous les pays ont eu ces effets-là. Alors, nous, c'est amplifié parce qu'on est historiquement très centralisateur. C'est l'État qui a fait la nation en France. Donc, ça, on est très centralisateur. Hein. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ça, c'est obsolète. Voilà, mais la Nouvelle-Zélande a su se réformer il y a 40 ans. Oui. L'Allemagne a su se réformer. L'Angleterre a su.
Le Canada
donc,
aussi.
Donc, c'est notre cycle à nous aujourd'hui. La Suède, le Danemark, etc. Donc, il faut pas tomber dans le fatalisme. Autrement, on arrête, on reste chez soi, on commente, on râle, et puis voilà. Deuxième élément. Comme la France est très centralisée, on a une belle administration, on a une belle fonction publique, hein, de gens plutôt bien formés, honnêtes, qui aiment le pays. Mais on a toujours une tendance à produire des schémas directeurs. Dès qu'il y a le Covid a été le révélateur absolu de cet absurdistan. absolue. C'est-à-dire que, et ce qui fonctionnait, c'était les initiatives locales. On arrivait à acheter des masques, on arrivait à vacciner. Et tous les schémas d'État, on nous disait, attendez le schéma, on n'attendait pas, on faisait quand même, et ça marchait. Mmh. Et le schéma, il sortait une fois que la maladie était plus là. Voilà. Et c'est donc une question de mentalité, de centralisation de la formation, de fait
confiance.
Que, ouais, de confiance, confiance et de culte des grands ensembles. On croit que plus c'est grand, plus c'est neutre. Mais c'est faux. Autrement, l'Union soviétique existerait toujours. Voilà. Et la Corée du Nord serait plus riche que la Corée du Sud. Or, c'est le contraire. Ça ne fonctionne pas. Et c'est contre-intuitif, ce que je dis très souvent. On a l'impression que l'État va nous protéger par la règle. Il faut des règles. Il faut un État fort.
Oui, mais alors les Français, ils sont aussi quand même habitués à être protégés.
Il faut réinventer
un État qu'on appelle un État nounou, qui s'occupe de notre bien-être, ce qu'on doit manger, ce qu'on doit porter comme vêtements, comment on doit se chauffer, comment on doit rouler. Je veux dire, dans toutes les étapes de notre vie, l'État doit nous dire ce qu'on doit faire.
D'ailleurs, c'est insupportable. Et moi, ce que je voudrais porter, c'est la voix du pays réel, hein, c'est-à-dire cette France qui est très créative. Il y a beaucoup de créativité en France. Il y a beaucoup d'esprit entrepreneurial. C'est très développé en réalité, plus que jamais. Et là-dessus, les Français, je suis pas d'accord avec tout à fait ça. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est que les policiers les protègent quand ils se font agresser. Mmh. Voilà. Mais
ça,
pas qu'on leur envoie le énième CERFA, lorsqu'ils essaient de, donc on a remis les CERFA d'or récemment avec Nouvelle Énergie. C'est Agnès Pannier-Runacher qui a eu le super CERFA d'or pour l'obligation d'installer, c'est un décret qui est sorti cet été, des toilettes avec lavabo sur les barges d'ostréiculteurs. Voilà.
Oui, on en avait parlé dans les grandes gueules.
Grand moment,
c'est magique.
Et donc, là-dessus, vous savez, quand Napoléon refait le droit et fait la codification, il y a Portalis, il écrit le droit sur des principes généraux du droit. Et aujourd'hui, il faut revenir à ça. Donc, il faut attaquer l'Himalaya sous plusieurs faces. D'abord, il faut transférer le pouvoir d'application des lois au pouvoir local. Et qu'on soit en compétition et qu'on rende des comptes là-dessus pour faire des choses concrètes. Et les gens nous virent si on n'est pas capable de rendre la loi applicable. Deux, il faut évidemment enlever du stock. Donc il faut que sous l'autorité du président de la République ou du Premier ministre, il y ait une équipe avec des chefs d'entreprise, avec des hauts fonctionnaires qui regardent toutes les contradictions normatives. Dans la même semaine, quand vous êtes maire de votre commune, vous pouvez recevoir une interdiction de construire parce qu'il y a un plan de prévention au risque en gestation, et ce qui est logique, et une obligation de construire 400 logements sociaux au titre de la loi SRU.
Voilà. Alors, on va se retrouver dans un instant,
David. Il faut un moratoire sur la norme. Toute norme contradictoire, on ne peut pas imposer en même temps une obligation et une interdiction.
On va se retrouver.
Détailler tout cela, et ça se retrouve dans un ouvrage qui est sorti il y a quelques temps qui s'appelle Ainsi va la France, manifeste libéral.
On va continuer aux éditions de l'Observatoire. Regard également sur la situation internationale, parce que si vous êtes président de la République, il faudra peut-être aussi dire à Donald Trump certaines choses, certaines vérités. Vous nous direz ce que vous en pensez de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Et puis des questions Didier Giraud, Sandrine Pégan et le docteur Marty. À tout de suite sur RMC, RMC Story avec David Lisnard, le maire de Cannes.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, avec aujourd'hui Sandrine Pégan. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai la tablée. Ils se sont trompés, ils ont mis la tablée de demain sur le programme. Donc mécaniquement, je lis.
Donc
ce n'est pas Zora, c'est Sandrine Pégan.
Et pas bien entouré, mon beau.
Je suis Marty Didier Giraud, je ne suis pas aidé par cette équipe de bras cassés. Et David Lisnard est face au GG. David Lisnard, question d'actualité, le carburant. Certains distributeurs nous disent qu'il va falloir s'habituer à un carburant autour de 2 euros, parce que malheureusement, ce qui se passe au Proche-Orient n'est pas prêt de se terminer. Le temps que tout revienne à la normale, ça va prendre du temps. Pour l'instant, ce sont des aides très ciblées qui sont proposées par le gouvernement. Trop ciblées, disent certains. Qu'est-ce que vous feriez à leur place?
Je suspendrai le certificat d'économie d'énergie. Ça fait plusieurs semaines que je le propose. C'est une baisse immédiate de 17 centimes par litre. Et surtout, ça n'a pas d'incidence budgétaire. C'est-à-dire que Bercy est pris à son propre jeu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un prélèvement obligatoire sur le litre de carburant qui sert à MaPrimeRénov', etc. Mais ce n'est pas considéré comme prélèvement obligatoire, comme tout ce qui est éco-organisme, prélèvement d'éco-organisme, alors que c'est un prélèvement obligatoire. Cette obscure clarté, quoi. Voilà.
Et, CVO.
Et donc, là, je crois qu'il faut hiérarchiser. Tant que le baril est à ce cours et qu'il y a cette situation, on peut le suspendre provisoirement.
Oui, mais le gouvernement dit, on peut pas retirer cet argent, on en a besoin pour électrifier le pays.
C'est un choix. Donc moi, c'est ce que je ferai, c'est pour votre question. Parce que le reste, le gouvernement est prisonnier des renoncements depuis 30 ans à voter des budgets équilibrés, quoi.
Voilà, on n'a pas de marge de manœuvre.
Pas de marge de manœuvre. Et moi, c'est tout ce que je me suis attaché à faire quand on m'a confié la mairie dont je m'occupe, ça a été de retrouver des marges de manœuvre. Et on a fait un énorme travail d'optimisation. On a réduit les effectifs de presque 20% maintenant. On a essayé de motiver les bons. Et on a baissé la dette. Il n'y a pas eu de transfert de dette, c'est pas du transfert bilan. Dans ma commune, on a baissé la dette de 82 millions d'euros en 11 ans, en 12 ans, pardon. Et on a baissé la fiscalité de 3,6%. On a multiplié par 10 la capacité d'autofinancement. Donc, 99% de mon temps, moi, c'est ce qui ne se voit pas. C'est de gérer comme dans une entreprise pour essayer de motiver les troupes, des marges de manœuvre. C'est comme ça qu'il va falloir gérer.
Quel est votre regard sur cette guerre en Iran?
Mon regard, c'est une question très très ouverte. Hein. Le regard, c'est que je souhaiterais ardemment que le régime des gardiens de la Révolution s'effondre, qui est un des régimes les plus abominables au monde, d'abord pour son peuple, 35 000 morts en 48 heures, massacrés par ses dirigeants, mais aussi pour la sécurité du monde. C'est-à-dire que ce régime-là a tué des Français, a fait des attentats dans le monde entier, alimente l'international islamiste qui fait des dégâts partout. Mais entre les vœux pieux et la réalité, il y a tout un monde que découvrent manifestement les États-Unis aujourd'hui. Et donc, en l'occurrence, là, ce qu'il faut arriver à faire, c'est que au moins une paix soit obtenue qui permette de respecter certains fondamentaux, la dénucléarisation militaire de l'Iran, c'est incontournable. Le respect de la sécurité des pays de la région, Israël, mais aussi les Émirats Arabes Unis, enfin, qui sont nos alliés d'ailleurs, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn. Et le troisième élément, c'est évidemment la liberté de circulation sur le détroit d'Ormuz. La France avait l'opportunité de prendre l'initiative. L'Angleterre avait réuni plus d'une quarantaine de pays. Il y a eu une initiative à l'ONU de Bahreïn. Je crois qu'on pourrait constituer une majorité à l'ONU pour avoir une force de libération des flux sur le détroit d'Ormuz. Malheureusement, on est passif parce qu'on n'a plus de moyens. Quand vous êtes surendetté et surfiscalisé et que vous pouvez même pas gérer une crise énergétique, mais comme ça sera, la prochaine sera pareille, il y aura autre chose. Vous vous rendez compte qu'avec nos impôts, cette année, nous allons payer 8 fois plus d'intérêts de la dette, 7,5 exactement, 8 fois plus hein, que tout le budget de la justice. Et on manque de greffiers dans tous les ressorts. On manque de parquetiers, etc. Donc, on est au bout de... Je ne cesse de dire ça. Ce système d'État-providence est fini.
C'est mais bon. En même temps, par exemple,
il faut le système d'État-performance.
Il faut augmenter le budget de la défense, en tout cas, la
volonté
de ceux qui le gouvernent. Donc,
mais
il faut bien de l'argent, là.
Plus l'État a dépensé d'argent sur ce qui n'est pas ses missions, nous dire ce qu'on doit faire tous les jours, moins il a dépensé sur ce pourquoi il a été inventé, c'est-à-dire le régalien. La justice, la diplomatie, l'armée, la police, la gendarmerie. Donc c'est tout cela, on est à la fin d'un cycle, il faut inventer un autre cycle.
Question de Didier Giraud, notre agriculteur.
Oui, alors moi je suis assez séduit par le discours, même si j'ai une analyse un peu différente de la vôtre, et je pense qu'un des maux de notre pays, c'est aussi depuis que les hommes politiques sont plus des gens issus du rang, qui sont passés par... l'entreprise, pendant les 30 glorieuses, les hommes politiques, c'était des anciens résistants. Aujourd'hui, on devient homme politique quand on a été DIRCAB, on a fait l'ENA, après on a été DIRCAB. Donc, à un moment donné, sur la simplification administrative et le fait de désinguer l'administration, ça change un peu le rapport qu'on a, et moi, je regrette le temps des députés-maires. Cette parenthèse étant fermée, moi, j'aimerais savoir comment vous allez faire. Parce que vous êtes comme les œufs, vous êtes à peu près une bonne demi-douzaine et bientôt une douzaine de candidats déclarés dans la droite, qui va entre Marine Le Pen jusqu'à Attal. Comment vous allez faire pour tous exister? Parce que il peut le dernier qui va se maintenir, il va prendre la responsabilité peut-être. D'éliminer la droite classique, on va dire, du second tour de la présidentielle. Alors j'ai bien compris que vous y êtes pour faire exister des idées qui sont nouvelles, mais comment vous allez faire pour exister là-dedans, quoi ?
David Isnard.
Moi, la seule façon, c'est la sélection, et c'est donc la compétition. Voilà. Je vois pas d'autre.
Ce sont les sondages qui vont.
Ça veut dire que avant le dépôt des candidatures, ceux qui seront les moins bien placés dans les sondages.
Non. La compétition, pour moi, elle doit se faire par un choix populaire. Parce que
une primaire.
Bah oui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. À une époque, on pouvait se permettre d'aller à plusieurs au premier tour.
Ouais.
Donc, on allait directement en demi-finale. Hein, Chirac, Balladur, Barre, Chirac, etc. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'il y a un éclatement de l'offre. Bon. Donc, il faut organiser un quart de finale. Je ne vois pas d'autre solution. Viens qui veut. vote qui veut.
Et mais la primaire, vous allez d'où à où? Parce que c'est ça le problème.
Viens qui veut, vote qui veut. Il faut surtout pas en définir le périmètre.
Ah, pas de périmètre.
Mais non, parce que ceux qui sont de droite, donc Glucksmann ou Mélenchon, vont pas venir. Le Pen ne viendra pas, parce que
c'est de droite
ou de gauche. Bah, ça, il faut lui poser la question. Moi, je ne crois pas. Pour moi, il n'est pas de droite, ouais. Mais qu'importe s'il se pense de droite.
Ça va obliger à se démasquer.
Parce que, exactement, ça va être un formidable
révélateur. Bardella est de droite.
En tout cas, hier, il l'a dit. Mais Marine Le Pen dit que non. Donc, ils font du en même temps, au RN. Mais, Bardella, il dit pas la même chose que Tanguy, etc. Donc, ils ont leurs problèmes aussi. Mais ils sont à 35%. Donc, de toute façon, ils n'ont surtout pas intérêt à venir dans une primaire. Ils viendront jamais dans une primaire. Non. Donc, la messe, elle est dite là-dessus. Et, il y a rien de, moi, enfin, on peut pas être, pourquoi ont-ils peur de la compétition? Et ça va être un révélateur, parce qu'il faut éviter la division qu'il faut perdre, mais il faut éviter aussi la compromission des notables. C'est-à-dire l'arrangement qui fait qu'on sort. Alors, ouais. On va mettre ça parce que ça fait plaisir aux gaullistes sociaux, on va faire ça pour plaisir aux libéraux.
Oui,
ça,
bah, après, voilà. Il faut s'engager défendre celui qui gagne la primaire.
Oui, non, ou à se taire.
On se rappelle.
À se taire. Pas définitivement.
On se rappelle comment ça s'est passé la dernière fois dans votre famille.
Jusqu'au premier tour. Mais la dernière fois, contrairement à ce qu'on pense, il y a eu très peu de divisions. Il y a eu très peu de divisions. Et en politique, il y a un truc que j'ai constaté, moi qui viens du monde du commerce, c'est que c'est pas tellement l'union qui fait la force, c'est la force qui fait l'union. Voilà. Quand vous arrivez à enclencher quelque chose, les gens ils viennent derrière vous. Et donc, je ne vois pas d'autre solution que cela.
Valérie est avec nous au 32-16. Bonjour Valérie.
Oui, bonjour les GG.
Vous nous appelez des Alpes-Maritimes. Bon, voilà. Je vous laisse avec David Lisnard.
Voilà, moi je suis de Fémenade, monsieur Lisnard, bonjour.
Bonjour madame.
Et mon mari travaille à Cannes, donc on a pu voir ce que monsieur Lisnard a fait dans sa ville. Donc je suis
en
vraiment...
bien ou en mal, c'est pas moi qui ai demandé d'appeler.
Non,
il amène ses cachets.
Je vous suis depuis longtemps et ça fait longtemps que j'espère quelqu'un comme vous justement au niveau des LR. Bon, vous les avez quittés, je peux vous comprendre. Moi, j'ai deux questions très simples. Si vous arriviez au bout de votre projet et si effectivement vous pouviez vous présenter à la présidentielle, malgré votre micro-parti Nouvelle Énergie, comment vous allez financer un tel coup? Parce qu'on sait qu'une présidentielle, ça coûte horriblement cher.
Une bonne question.
Si vous n'arrivez pas jusqu'au bout, je ne vous le souhaite pas, est-ce que vous allez vous rallier à un futur candidat potentiellement de droite qui arriverait à la tête? Et dernière question, est-ce que vous accepteriez un Marocain de ministre ou de Premier ministre si c'était quelqu'un de droite à la tête, y compris le RN, et qu'on vous proposait ces postes-là? Voilà.
Merci madame. Donc, Nouvelle Énergie aujourd'hui, et c'est un vrai chiffre, je ne mens que par omission, donc je ne mens pas. Donc à 15 000 adhérents, c'est très faible à l'échelle d'un pays, mais c'est trois fois Renaissance. Voilà. Et il y a une dynamique, et notamment j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi, ce que j'appelle les orphelins de la droite, qui étaient partis soit plus à droite, soit chez Emmanuel Macron, et qui se sont rendus compte qu'il était très étatiste et très conformiste en réalité. Mais effectivement, et ensuite, c'est la dynamique qui doit amener le financement. Mais aujourd'hui, et ces données-là sont publiques, vous verrez que par rapport à d'autres, il y a plus de moyens. Deux, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. La deuxième question, pardonnez-moi, quelle était-elle? J'ai un trou de mémoire.
Alors, le financement.
Le financement, je viens de répondre. Voilà.
Alors, le financement, et si et jamais.
Si jamais vous perdez, est-ce que vous accepterez le poste de ministre?
Alors, je ne.
Parce que je crois que Macron ne vous a jamais proposé.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Ah ben en tout cas
ça
n'a pas été divulgué quoi.
Ça a été évoqué, ça a été dit, ça a été publié.
Si, mais vous êtes toujours refusé. Voilà. Et sirène macroniste.
Oui, je l'ai dit publiquement.
Pourquoi vous et pas certains de vos amis?
Non, mais parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut comprendre la psychologie des gens. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est je me suis organisé ma vie pour ça. Je viens d'un monde. J'étais fils de footballeur professionnel et de danseuse étoile, reconverti dans le commerce. J'ai eu des commerces. Ce que j'aime, c'est décider, c'est être patron. Voilà, je ne veux pas être hypocrite. Et un poste de ministre, c'est magnifique si vous pouvez décider de choses.
C'est ça.
Or, aujourd'hui, vous ne décidez de rien. Et très objectivement, et ce n'est pas une vue de l'esprit et ceux qui me savent vivre, je me fous de l'image sociale. Je ne cherche pas des points retraite. Je suis indépendant dans ma vie et je resterai indépendant. Donc, si demain, j'avais tout d'un coup une révélation d'une personnalité qui est un président et que je trouve formidable, servir le pays, c'est magnifique. Mais si j'ai décidé d'y aller, moi, avec un peu d'insolence, c'est parce que je ne me retrouve pas dans la proposition politique.
Allez, Jérôme, parce que c'est ton retour. Hein.
Vous avez parlé de la santé tout à l'heure.
Oui.
Vous avez cité l'hôpital. Vous êtes un libéral.
Oui.
Vous allez sortir, un précis, vous avez dit sur la santé en mai.
Dans un mois.
J'espère que vous allez mettre du libéralisme là-dedans. C'est-à-dire que ça fait des années, nous sommes des médecins libéraux, ça fait des années qu'on nous confond avec des médecins hospitaliers, ça fait des années qu'on veut transformer la médecine libérale en médecine hospitalière, ça suffit. Faites-nous confiance et libéralisez tout ça.
Oui, vous avez raison.
Faites confiance à Jean-Marc.
Je pense que vous ne serez pas déçus parce que j'ai publié. Et d'ailleurs, si l'hôpital est devenu un goulot d'étranglement, c'est parce qu'on a flingué la médecine libérale et qu'on a, hospitalo-centré, comme on dit, toute la politique de santé et surtout qu'on mène pas une vraie politique de santé, on mène qu'une politique du soin. Et ça, c'est encore une autre question. Voilà.
Merci, David Lisnard. Merci d'être venu à la table des grandes gueules.